passer l'été à jouer dehors.
C'est décidé, ma job cet été, ce sera le camp Néo du Patro de Lévis.
Je suis déjà sur le site du Patro. Il y a différents postes et puis c'est super simple d'appliquer.
Rentre au patrolevis.com ou encore sur la page Facebook du camp Jouve Néo et rejoins l'équipe en deux clics.
Vous pensez tout connaître? Défiez le diable à l'émission L'Enfer est pavé de bonnes questions. Jouez en direct partout au Québec à l'adresse 969fm.ca/quiz. Répondez aux questions de connaissances générales et gagnez de l'argent. Tous les dimanches 17h dès le 13 février sur les ondes de CJMD 96.9.
Pas pour les douces, hein, mon homme.
h 34 à l'Alternative Radio. Guillaume à tes côtés, à votre service avec Chico, Lolo et Lada Longchamp encore pour une belle heure et demie. Plein de beau monde à venir jaser. Raymond Côté, ancien député du NPD, va être avec nous autres tout à l'heure pour contrebalancer nos personnages plus conservateurs qu'on reçoit avant. Rénal Duberger sera là tantôt. Maxime Bernier dans deux secondes. Le temps que Chico nous dise comment ça se passe sur le réseau.
La Rive-Sud, ça va très bien. Ceux qui veulent venir nous rejoindre, je vous suggère fortement de passer par Duplessis versus Henri IV. C'est un petit peu plus facile, Robert Bourassa. Direction nord, on ralentit à la hauteur de Charest. Ça lâche pas jusqu'à de la capitale. La capitale, c'est seulement en est. Et sur Laurentienne, direction nord aussi, ça tend à s'installer. Mais rien de si pire que ça.
969FM.ca, les podcasts sont toujours là 5 minutes après les émissions. Dans notre cas, c'est 18h05, pendant que la chose du Grand Nick se mettra à l'œuvre. Comment ça va la météo? Ça regarde pas pire. La neige arrive ce soir.
Cette nuit, en fait, à peu près 5 cm de neige pour cette nuit, avec un beau gros zéro. Jeudi, 1 degré avec 5 cm de neige aussi. Vendredi, plutôt nuageux avec moins 13.
Le chef du Parti populaire du Canada est au bout du fil. Maxime Bernier, merci de vous joindre à nous. Salutations.
Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
Êtes-vous revenu en Beauce? Vous avez passé quelques temps à Ottawa. Vous êtes où en ce moment?
Je suis à Montréal présentement.
D'accord. Et je veux qu'on jase de ce séjour à Ottawa. Vous êtes resté combien de temps là-bas?
Je suis arrivé à Ottawa jeudi dernier et je suis reparti mardi matin. Ça a été un week-end extraordinaire. Et puis, dommage que les médias ont essayé de qualifier les gens qui étaient là comme des racistes, des gens qui ne respectent pas les droits des autres ou les libertés des autres. C'est plutôt tout le contraire.
Au mieux, on présentait ça comme une session de défoulement, un peu pour petits idiots qui ne comprennent pas. Ça a été très difficile d'avoir quoi que ce soit de positif. J'en ai vu un peu plus qu'avant là, sur des gens qui contredisent les dogmes sanitaires, là. Mais quand même, c'était pathétique. Et surtout sur l'histoire des drapeaux nazis. Moi, j'ai été devant mes écrans pendant une bonne partie de la journée. J'en avais vu zéro, surtout sur les feeds. Là, parce que j'essaie de m'alimenter maintenant autrement qu'avec l'oligopole médiatique. J'avais rien vu de ça jusqu'au bulletin plus tard en soirée. Est-ce que vous avez pu voir ça? Vous des drapeaux nazis dans la foule?
Non, premièrement, il n'y avait pas des drapeaux nazis. Bon. Il y avait un drapeau, une personne qui se promenait avec une cagoule. Okay. Et lorsqu'il y avait des médias qui essayaient de se faire voir parmi les médias, sur à peu près 40 000 personnes. Bon. Et lorsque cette personne-là passait à côté des gens, il n'y a pas eu de violence pour... Les gens le disaient à cette personne-là, ce jeune-là qui était caché, est masqué. Okay. Il disait, écoute, va-t'en, on ne veut pas te voir auprès de nous autres. Et puis, la personne s'en allait puis se promenait. Et je pense que c'était dans le but de nous discréditer. Ouais. Puis les médias ont pris ce fait-là, ce drapeau-là, et ont mis tout le monde dans le même panier.
Moi, je me suis demandé si c'était pas quelqu'un qui était malhabile puis qui voulait dire, en fait, que ça, c'est malhabile d'emblée. Ah, c'est des nazis, le gouvernement. J'ai jamais pu considérer qu'il y avait du monde qui arrivait là. Oui, vive le nazisme. Puis j'ai entendu dire qu'il y avait des drapeaux qui s'étaient fait un peu tirer dessus, si c'est pas enlevé d'après des bâtons de hockey, là, d'autres affaires. La foule, en grande, l'extrême majorité, était pour les bonnes raisons sur place, c'est-à-dire le rétablissement des fondements de la démocratie libérale. Je ne l'ai pas entendu non plus. Les discours, évidemment, n'ont pas été diffusés en direct là, autrement que, oui, sur des feeds. Mais c'est bien ce que les gens demandent et j'ai l'impression que, plus précisément de votre côté, il y a ça, puis aussi la levée des obligations. Est-ce que vous avez d'autres demandes? Vous faites partie de ce mouvement-là, carrément, Maxime Bernier.
Ben, premièrement, nous, on n'est pas dans l'organisation de ça. Et okay. puis, c'est un mouvement qui est commencé vraiment de la part des gens, de partout vers le Canada, comme vous l'avez pu voir.
Organique.
Le message clair, c'est que les gens en ont marre. Les gens ont dit « assez, c'est assez » pour mettre fin à toutes les mesures. Et la goutte qui a fait déborder le vase, bien, je pense que c'est la dernière mesure qu'a imposée le gouvernement Trudeau aux camionneurs qui a fait réaliser à la population que tout ça n'est pas basé sur la science, que tout ça n'est pas basé sur la logique, que tout ça n'est pas basé sur le gros bon sens. Et je pense que c'est pour ça que la population a embarqué. Parce que ce qu'on a dit aux camionneurs, ce que M. Trudeau a dit aux camionneurs, il a dit, écoutez, là, si vous n'êtes pas vacciné et puis vous revenez des États-Unis, vous allez devoir être en quarantaine pendant 10 jours.
Ça équivaut à leur enlever leur emploi. Mais il l'a fait avec des conducteurs de train, il l'a fait avec des gens qui travaillaient dans l'aviation. Il l'a fait dans le domaine des communications, à certains égards. Là, les entreprises de type fédéral devaient appliquer des politiques de ce genre-là. Il s'est jamais gêné pour enlever des emplois. Mais là, la goutte qui fait déborder le vase, c'est, moi, je pense, le côté marketing, il aurait pu s'en douter que si des troqueurs se levaient, ça pouvait faire le mouvement final, parce que ça a marché. En gros, on le sent.
Bien, comme vous le dites, écoutez, là, 10 jours en quarantaine pour un camionneur, c'est perdre 10 jours d'emploi. Puis aussi, il faut savoir que les camionneurs américains, pour traverser aux États-Unis, doivent avoir aussi le double vaccin, la passe vaccinale. Ouais. Puis on sait, selon les statistiques, qu'à peu près 40 % des camionneurs américains ne sont pas vaccinés. Okay. Donc, cette mesure-là a un impact majeur sur la chaîne d'approvisionnement. Mais aussi, le plus absurde, c'est que les camionneurs étaient des travailleurs essentiels dès le début de la pandémie. Rappelez-vous, on a fermé les frontières à tout le monde au début de la pandémie. Et sauf aux camionneurs, parce qu'ils devaient nous amener des biens essentiels, comme la nourriture. Et ces gens-là étaient des héros au début de la pandémie. Et maintenant, on leur dit, à la fin de la pandémie, après 2 ans, c'est dangereux si vous traversez la frontière et que vous n'êtes pas vacciné. Sachant que vous êtes vacciné ou pas, tout le monde peut attraper et transmettre le virus. Le virus ne fait pas de distinction si vous êtes vacciné ou pas. Et donc, là, la population s'est aperçue. Et c'est ça, le mouvement populaire. C'est que la population, avec cette mesure-là, et en plus avec Omicron, parce que, comme vous le savez, Omicron se transmet très rapidement, est très peu dangereux, c'est une grosse grippe pour la plupart des gens, ce qui est une bonne nouvelle, mais on sait, dans notre famille, on connaît tous quelqu'un qui a eu Omicron, puis que c'est comme la grippe, et là, les gens réalisent, parce qu'ils ont tous eu à peu près Omicron, ou ont connu quelqu'un qui l'ont eu, que tout ce qu'on dit dans les médias sur le danger du virus, etc., il faut faire attention, il faut porter des masques, il faut la distanciation sociale. Et là, les gens disent, ouais, ça n'a pas de bon sens, là. Mon beau-frère l'a attrapé, je l'ai attrapé. C'est quoi cette affaire-là? C'est pas basé sur la science.
C'est un petit rhume.
Ben, c'est ça. Mettez ça ensemble, la peur au Omicron, le facteur de la politique qui a fait déborder le vase de Trudeau, et là, vous avez un relèvement de la société qui se tient debout et qui dit « assez, c'est assez ». Et c'était ça le message à Ottawa ce week-end.
Juste précision, ce que moi-même j'ai dit, oui, il y en a qui l'ont eu plus tough. Il faut toujours prendre en considération l'effet nocebo avec aussi les cris qu'on entend de crainte des médias à tous les jours. C'est sûr que ça a empiré des états de santé. Je veux pas présumer, j'aime pas présumer des façons de voir les choses des gens, mettre des choses dans leur tête, mais j'aimerais ça qu'on essaie de comprendre ensemble comment Justin Trudeau a pu arriver à une mesure comme ça, parce que on sait que oui, il y avait des sondages qui disaient que les gens voulaient plus de mesures, puis qu'il y avait une frustration qu'on redirigeait vers les non-vaccinés, là. Mais en même temps, tu sais, c'est pas non plus le gars, il n'y a pas un quotient de 70, là. Il y a une certaine intelligence. Qu'est-ce qui a pu y prendre d'être aussi violent sur cette caste de Canadiens-là, qui est de tous horizons, en passant?
Bien, lui, ça va dans la logique de ce qu'a imposé à d'autres Canadiens. La dernière politique en ce qui concerne les camionneurs. Regardez, là, l'ensemble des Canadiens ne peut pas voyager en train ou en avion, ça m'inclut moi, si vous n'avez pas le passeport vaccinal. Donc, c'est dans la logique de ces restrictions. Et pour lui, cette mesure-là était normale. Et ce qui est anormal actuellement, c'est qu'il y a plusieurs pays à travers le monde qui laissent tomber toutes ces mesures-là. Et M. Trudeau, lui, en rajoute, c'est à contre-courant. Et là, les gens, c'est M. Trudeau, là, il a attrapé Omicron, là. Il est triple vacciné, il a attrapé Omicron. C'est quoi le message qu'on dit à la population? Écoutez, là, le vaccin ne peut pas arrêter la transmission du virus. Le seul but du vaccin, c'est que si vous attrapez Omicron et vous êtes âgé, vous avez de la comorbidité, ça va vous protéger d'avoir une forme grave de COVID. C'est seulement ce que fait le vaccin. Et là, on confine, on enlève des droits et des libertés pour finalement une grippe qui se propage dans la population. Et c'est pour ça qu'il faut que ça arrête. Et je pense que M. Legault aussi va devoir entendre le même message.
On dirait que ça commence à résonner dans sa tête. Mais tu sais, juste pour finir avec Justin, Trudeau, c'est son père, le père de la Charte des droits et libertés. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans cette tête-là? Moi, je suis rendu parano un peu. Je peux pas concevoir que c'est simplement un petit calcul de ce genre-là. Comme vous le dites, en même temps ou en plus, ailleurs, ça déconfine partout. Êtes-vous parano des fois avec les raisons d'aller aussi loin?
Ben, je ne cherche plus. Je ne cherche plus les raisons, les motivations du premier ministre Trudeau. Là, je regarde les faits et ce que je m'aperçois, c'est que toutes ces mesures-là, tant Trudeau que nos gouvernements provinciaux, il faut le dire, là, ça a été un échec total. Mais... Et là, ce qu'il faut faire, il faut s'assurer que toutes ces mesures-là tombent le plus rapidement possible. Il n'y a plus aucune logique pour avoir ces mesures-là liberticides et faire en sorte que plus jamais dans le futur, des gouvernements vont nous enfermer, vont nous confiner pour un virus. Il y avait une autre façon de procéder et dès le début de la pandémie, des experts qui ont signé la Great Barrington Declaration l'ont bien dit, on protège les plus vulnérables, on rouvre l'économie. Ça nous a coûté des milliards de dollars, des déficits qu'on n'a pas les moyens. Et là, on paye avec la taxe d'inflation, 4,8% d'inflation cette année. Ça va augmenter encore. Ça, c'est une taxe déguisée. On s'appauvrit. Si les Québécois, leur salaire n'augmente pas de 4,8% cette année, ils s'appauvrissent. Et la plupart des Québécois n'auront pas une hausse de salaire de 4,8%. Et ça, on paye parce que M. Trudeau fait des programmes qu'on n'avait pas émoqués et incité les provinces, comme le Québec et d'autres, à mettre des mesures de confinement en sachant qu'elles allaient être compensées par le fédéral.
La santé publique fédérale, après le SRAS en 2003, avait dit qu'il fallait se parer à ces éventualités-là de d'hystérie devant un virus. Et on a fait exactement le contraire des recommandations après cette pandémie-là. On s'en vient dans un autre registre d'idées. Il y a eu un mouvement au caucus conservateur. On a expulsé Erin O'Toole aujourd'hui. Vous êtes ex-membre de ce parti-là. Comment avez-vous vécu les derniers jours en voyant ça? Ça aurait pu être votre tour pour cette course à la chefferie-là. Comment vous vivez ça?
Ben, je suis content que vous me posiez la question parce que justement aujourd'hui sur les médias sociaux, il y a plusieurs des gens qui m'ont dit, ben Maxime, est-ce que tu as l'intention de retourner au Parti conservateur suite au départ d'Erin O'Toole? Et ça me donne l'opportunité de clarifier ça bien clairement. La réponse, elle est très très simple. Non, jamais.
Ça m'aurait surpris.
Je l'ai déjà dit. Ce parti est intellectuellement et moralement corrompu. Peu importe qui sera le chef de ce parti-là, ce parti n'a plus de principes clairs. Regardez juste, par exemple, l'ensemble des députés à Ottawa, au Parlement d'Ottawa, incluant tous les députés conservateurs, ont voté hier une motion condamnant les gens qui sont allés manifester à Ottawa en support, en appui des camionneurs, en disant que c'était des antisémites, l'islamophobie, du racisme anti-noir, de l'homophobie, la transphobie.
Non. Moi, ce que je comprends de ça, c'est qu'ils ont condamné ces éléments-là là, qui ont pu être
pourquoi?
Présents. Là. Ouais.
Pourquoi? Parce que les médias traditionnels ont menti à la population en disant que cette foule-là était une foule de racistes, d'antisémistes, d'homophobes. C'est ce qu'on dit, là. Et donc, là, pour bien paraître, tous les conservateurs ont dit « oui, on va voter ». Et on va dire là que les gens qui étaient là, on n'est pas d'accord avec des positions. On n'avait pas besoin de passer une motion comme ça pour discréditer les gens qui étaient là. Ces mêmes conservateurs-là, ces mêmes députés-là, ont fait campagne électorale en septembre dernier sur un programme socialiste avec plus de dépenses, plus de déficits, imposition d'une taxe sur le carbone. Donc, il n'y a plus de logique. Le parti est vraiment intellectuellement et moralement corrompu. On a eu l'exemple. Peu importe qui sera le chef, mais nous, au Parti populaire, on va rester et on va toujours défendre des principes qu'on croit. un plus petit gouvernement à Ottawa qui respecte les provinces, qui respecte les payeurs de taxes, qui respecte la Constitution et nos droits et libertés.
Si Erin O'Toole était demeuré en place, est-ce que vous auriez été prêt, je vais l'avoir, à accueillir les députés qui s'étaient mis la tête sur le bio et qui, probablement, dans une bonne proportion, auraient quitté?
Ah, bien, nous, nos portes sont ouvertes à tout le monde. Mais je ne pense pas qu'il y a aucun de ces députés-là là, qui vont venir. J'ai jamais sollicité ces députés-là depuis mon départ du Parti conservateur.
Non, même pas là, dans les derniers jours. Ah bon?
Non, même pas dans les derniers jours. J'ai dit publiquement, écoutez, si vous êtes sérieux, regardez, là, ça a pris tout le courage là, à certains députés pour faire un petit tweet pour dire qu'il appuyait les camionneurs.
Ouais.
Mais où étaient ces députés-là les deux dernières années lorsque nos droits et libertés étaient brimés puis le sont encore? Ils étaient silencieux, ils n'ont pas de conviction, ils n'ont pas de courage, ils suivent les sondages. Et maintenant qu'à peu près 54 % de la population est d'accord pour laisser tomber ça, ils trouvent un petit courage de venir dire félicitations au troqueur.
Ben,
c'est des gens sans principe et opportunistes.
Pierre Poilievre se prononcer dans des registres où ça peut être concordant avec ce qui se dit au Parti populaire du Canada. Je voudrais vous entendre sur cette personne-là qui, moi, personnellement, j'ai l'impression que ça deviendra le prochain chef du Parti conservateur du Canada.
Ben, pour moi, Pierre Poilievre, mais il n'a pas parlé pendant 2 ans. Il n'a pas condamné pendant 2 ans les mesures qui ont été prises.
Un peu? Ah oui, plus que tout ce que j'ai vu à Ottawa, par ailleurs, à part pour le Parti populaire.
Je vais vous donner ça. Pierre Poilievre, c'est un critique et il a parlé beaucoup des déficits, de la taxe d'inflation de Trudeau, etc. Ça, je vous le donne. Depuis 2 ans, depuis ces déficits-là, Pierre Poilievre a parlé comme Maxime Bernier là-dessus en disant que c'était une taxe déguisée, qu'il fallait arrêter ces dépenses-là. Mais sur tous les autres sujets, sur la culture woke, sur les mesures, écoutez, c'était dans l'actualité pendant 2 ans. Ils n'ont pas eu le courage de parler parce qu'ils suivent les sondages et les sondages à l'époque n'étaient pas favorables. Et moi, être un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, qui en parle et qui sait, qui pense que la meilleure vision et que rien ne va l'arrêter. Et plus qu'on va parler de nos idées, plus qu'on va avoir des gens qui vont nous appuyer, c'est comme ça qu'on augmente. Le Parti populaire, on a commencé à 1,6 % du vote. On est à 5 % dernière campagne, plus supposément, on est à 10 % dans les sondages.
Ouais.
On va toujours, on reniera jamais nos principes, on va toujours faire de la politique autrement. Puis notre but, c'est qu'on pense, qu'on croit aux individus, on pense que les individus savent mieux qu'un gouvernement qu'est-ce qui est bon pour eux. On doit leur donner plus de liberté, ça veut dire plus de leur propre argent dans leur propre poche, arrêter de les réglementer, de les traiter comme des enfants irresponsables. C'est notre philosophie, on va toujours prôner ça, et c'est la base de la société occidentale. C'est comme ça qu'on crée de la prospérité. Plus on a de liberté, plus on a de prospérité dans un pays. Puis les conservateurs n'étaient pas là pour prôner ces idées de liberté, de responsabilité, d'équité et de respect que nous, on prône au Parti populaire depuis la création du parti.
Beaucoup de pragmatisme. Pour des politiciens de carrière, ça a l'air à aller de soi. Vous avez déjà adopté une façon de voir qui ressemble à ça, pendant votre présence au Parti conservateur. T'sais, à un moment donné, il faut faire des compromis. C'est des choses qui se sont dites puis auxquelles vous avez adhéré. Là, vous semblez plus en mode intransigeant. Vous êtes confiant que côté marketing politique, en essayant pas de ratisser plus large à certains moments, ça peut mener à un gouvernement majoritaire du Parti populaire?
Non. Si vous écoutez mes discours que j'ai fait, allez sur Internet, vous allez trouver des discours d'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 13 ans sur l'économie, sur la plupart des sujets. Surtout lorsque j'étais député, que je n'étais pas ministre parce que j'avais plus de liberté de parole.
Ouais.
Lorsque vous êtes ministre, vous devez respecter la solidarité ministérielle.
Ouais,
j'ai toujours prôné ces idées-là. Et lorsque j'ai perdu la course au leadership à 49 % du vote, pendant 15 mois, les 15 mois qui ont suivi, j'ai essayé de convaincre Andrew Scheer, le leader, de prendre de nos idées, qui pourtant étaient très populaires parmi le membership. 49 % des gens avaient voté pour notre programme. Et il m'a dit non, Maxime, la prochaine campagne, on ne prendra pas tes idées. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas populaires vis-à-vis la population, et même si elles sont populaires vis-à-vis les membres.
Donc, dans la population où on a besoin de faire des gains.
On fait fi de nos principes pour essayer d'être au gouvernement. Et moi, je vais vous donner un exemple d'un leader de principe, là, peut-être à une élection, c'est Brian Mulroney en 1988, le libre-échange. Okay. Tous les partis d'opposition étaient contre le libre-échange avec les États-Unis. Et les sondages donnaient 70 % contre. Les Canadiens ne voulaient rien savoir. Brian a dit non, pour l'avenir du pays, c'est important. Et il faut faire le libre-échange pour la prospérité future. Et moi, ça va être un cheval de bataille. Il est parti en élection derrière, dans les sondages, tout le monde, et il a gagné la plus grande majorité de l'histoire du Canada. À ce moment-là, Brian Mulroney a été un leader et il n'a pas suivi l'opinion publique. Il a dit, j'ai une vision, suivez-moi, et c'est à moi de vous convaincre, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ça, un vrai leadership. Legault et les autres ne sont pas des leaders. Ils font des presse, des conférences de presse. Ils regardent des sondages. Ils font des sondages à tous les jours. Regardez le budget des gens autour de son équipe de crise, de M. Legault. Il y a 5 personnes de communication. Ouais. Ils font des sondages. Et là, c'est pour ça que moi, j'ai toujours dit depuis le début de la pandémie, et je vais terminer là-dessus, que c'est une bataille pour changer l'opinion publique. Parce que lorsqu'on aura l'opinion publique de notre côté, les politiciens, tels qu'ils sont opportunistes, vont changer et laisser tomber leur politique.
On le voit.
C'est ce qui arrive.
On le voit déjà.
On me traitait de fou il y a 2 ans. Je dis pourtant la même chose que ce que je disais au début. Puis maintenant, bien, il y a plus de gens. Puis on n'a pas besoin d'être 50 % pour remporter. Les politiciens regardent la tendance dans les sondages. Et là, ce que voit M. Legault, il y a une tendance, il y a une petite lumière jaune qui s'allume, où il y a plus en plus de gens qui sont en désaccord avec ses positions. Fait que si on passe de 10 % à 15, 16, 17 %, ouais, on gagne. Ouais. Parce qu'ils ont peur et ils veulent se faire réélire. Il n'y a aucun leadership au Canada, c'est ce qui est dommage. Et le Parti conservateur du Canada est pareil. Peu importe le leader, ça sera la même chose.
Je veux ajouter on regarde votre parcours, vous avez été en opposition à l'intérieur du Parti conservateur à certaines occasions, puis ça avait été bien géré. Vous aviez tenu certains principes, puis Stephen Harper pouvait aller dans une autre direction à certaines occasions, mais vous avez aussi réussi à l'amener dans la vôtre, à d'autres. Sondages mentionnés, je veux juste dire que ce que je trouve le plus drôle dans ces roseaux-là qui plient au gré de ces interprétations-là, c'est justement, ils les interprètent mal, même s'ils payent trop de monde en communication. Ils n'ont pas compris que des panels web, ça devient non probabiliste, mais tu te prives de beaucoup d'exemples de travailleurs de la construction. Trouve-moi un gars qui fait 100 000 dans la construction qui va prendre du temps pour remplir une patente le soir, que ça va lui donner 5$ au bout de 6 fois à remplir ça pour plusieurs minutes. Je nous ramène à Québec quelques instants pour terminer. Maxime Bernier, oui, chef du Parti populaire du Canada. Manif en fin de semaine, allez-vous être là? Et est-ce que c'est Rambo ou le bonhomme carnaval qui va gagner?
Premièrement, c'est le temps du carnaval et je pense que les gens doivent être joyeux et fêter le carnaval. Comme à Ottawa, c'était pas une protestation à Ottawa, c'est ce que j'ai toujours dit, c'était un rallye. Les gens étaient heureux, il y avait des sourires. Pourquoi les gens étaient heureux? Parce qu'ils savent que la fin des mesures-là, des mesures liberticides arrive, parce qu'ils voient là, maintenant là, qu'on est au bout du tunnel, et c'était ça l'atmosphère. Et je souhaite qu'à Québec, on ait une atmosphère comme à Ottawa, pacifique, les gens heureux qui manifestent et qui célèbrent la venue de la reconquête de nos libertés. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, mon agenda est assez chargé. On me demande d'aller à Toronto, on me demande d'aller à Québec, on me demande d'aller à Ottawa. Je ne le sais pas encore, il y a des possibilités, mais rien n'est sûr.
C'est pas terminé de toute façon à Ottawa, puis oui, il y a d'autres capitales de d'autres provinces où il y aura de l'action, évidemment. Mais Rambo versus le bonhomme carnaval?
Ben, moi, j'ai toujours aimé le bonhomme carnaval, mais c'est pas Rambo, là. Les gens qui vont être là, j'imagine, ça va être des gens, comme les gens que j'ai rencontrés à Ottawa, des familles, des jeunes, des gens plus âgés,
ben oui,
qui vont dire un message clair. Et c'est leur porte-parole, je ne pense pas que c'est nécessairement Rambo, mais le message clair, c'est de dire assez, c'est assez, on veut retrouver nos libertés.
Mais parmi les organisateurs, j'ai réussi à y faire dire qu'ils regardaient d'un bon œil le Parti conservateur du Québec récemment, fait qu'il pourrait peut-être y avoir plus d'affinité que vous pensez en ce moment. On s'en reparle. Merci Maxime Bernier. À la prochaine.
Je vous remercie. Bonne journée. Bye-bye.
C'était le chef du Parti populaire du Canada. Et le mot populaire, il y a eu des questionnements là-dessus. Et j'ai un commentaire dans mes affaires ici de quelqu'un qui rit un peu du nom. C'est que c'est du populisme assumé. Et ça, perso, j'ai pas d'objection à la patente. C'est la seule alternative à cette orthodoxie politique qu'on connaît qui justement génère beaucoup de tensions sociales. La gauche et la droite se sont tellement rapprochées, puis ils vont toujours dans le même sens de plus d'État, que le populisme est c'est pas parfait, mais est une solution alternative à la patente. On aime ça, les alternatives à l'alternative radio. Mais en fait, surtout dans les salles des nouvelles, la station n'a pas de ligne directrice, je veux rappeler ça. Dans le show du Grand Nick tantôt, ça va dire le contraire de ce qu'on vous apporte ici. Chico?
Quelqu'un se moquait avait de la difficulté avec le nom Parti populaire du Canada.
Ouais.
J'avais de la misère avec le Parti populaire du Canada jusqu'à ce que je comprenne qu'en anglais, c'était People Party of Canada. Donc, dans le fond, le Parti du peuple.
C'est un parti populiste et assumé.
Mais populaire, je pense que, tu sais, souvent, lorsqu'on veut utiliser le terme populaire, on va dire, bon, c'était à la mode. Mais populaire, dans ce contexte-là, veut dire du peuple.
Exact. Pas des fonctionnaires. Mais tu sais, au Québec, ça reste que il y a la moitié des ménages qui dépendent de l'État pour payer leur loyer. Faut y penser aussi, mais c'est pas en maintenant des emplois artificiellement en place que ça va aider qui que ce soit, parce que ça prend des agents économiques productifs qui ont du pic puis qui ont du gaz. Et quand on rajoute des trucs artificiels, c'est des ponctions sur ces gens-là. Tout le monde est perdant au bout de la ligne. Faut être efficace. Et je pense que c'est ce qui est prôné. Est-ce que quand on aura un gouvernement populiste au Canada, on aura de l'efficacité? Ça reste à voir, mais à un moment donné, il va falloir essayer d'autres choses. Et c'est d'alternative. Personnellement, ça m'a pris un cheminement avant d'avoir une acceptation. Maxime Bernier, j'ai toujours trouvé sympathique. Oui, drôle à d'autres occasions. Mais maintenant, je sens qu'il est à sa place. Je l'ai vu aussi à Ottawa. Il avait l'air serein. Il y a eu des propos concis sur, un peu comme je dis, les principes de la démocratie libérale qui sont levés depuis 2 ans versus une menace qui ne commande pas ça. C'est aussi simple que ça. On est tanné, moi je suis tanné d'entendre ça. Moi perso, mes problèmes avec les mesures, c'est pas dans... ce que ça m'affecte comme personne, je le rentre pas dans le calcul. Faut penser en termes de principes puis de fonctionnement de notre société. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y en aura toujours des menaces virales puis des nouveaux virus respiratoires. Je ne l'ai jamais dit trop. Il y a 1400 pathogènes dans le monde qui tuent du monde par infection au niveau de 16 millions de personnes par année. On ne ferme même pas un club échangiste. Là, on a de quoi qui tue 0,05% de ceux qui l'attrapent. Puis on lève les libertés fondamentales, puis aussi des principes de base de la médecine comme le consentement libre et éclairé. C'est clair que ça n'a pas de sens, c'était le temps que l'opinion se réveille. Puis là, le sondage Angus Reid à 60% des gens qui veulent la levée immédiate des mesures, les gars de la construction, les troqueurs, ils répondent pas plus qu'avant il y a une semaine à des panels web, OK? Fait qu'imaginez-vous bien que c'est encore plus élevé que ça. Il va falloir qu'à un moment donné, ces gens-là changent leur discours, mais ils résistent présentement. Plus ils résistent, plus ils ont de chance que des gens s'en rappellent puis que ça leur fasse du tort aux élections. Moi, ce que j'aime pas, par exemple, dans le mouvement du cachot de convoi de la liberté ou des choses que j'appuie comme ça de revendication de lever des mesures, c'est, aussi je me répète, mais je sais que l'extrait va circuler dans des cercles où on n'est pas toujours présent nécessairement, quand on dit... Ils vont aller en prison, ils vont payer, on va faire un gouvernement parallèle. Il y avait des histoires de même aussi avec des gens d'Alberta là, qui voulaient, avec le Sénat, essayer de tasser la députation. Ça, c'est de la merde, ça. Tu vas ébattre legit ou t'es battras pas, ferme ta gueule. C'est nocif, de toute façon, pour le mouvement en soi. Puis après ça, les médias en font leur chou gras. Allons-y legit, des manifs. Un siège, c'est pas épeurant, c'est pas le premier siège pacifique qui se produit au Canada puis dans l'histoire des démocraties, il n'y a rien là.